Fréquence. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
Merci d'être fidèle à Cube Radio. J'aimerais d'entrée de jeu saluer deux personnes importantes, Jean-François Roy, notre metteur en ondes et notre réalisateur, et Jeff Bérard, tiens, notre directeur technique, les gars les plus zen que je connaisse, là, vraiment là, extrêmement zen. C'est comme des canards, là. Tu sais, les canards, là, ça au-dessus de l'eau, c'est tout gracieux, mais en dessous de l'eau, là, ça pédale énormément. Alors voilà, je veux vous remercier. Bien sûr, Jean-Pierre Ferland, on va en parler, mais on ne parlera pas que de ça, bien sûr, dans l'émission. Mais je veux rien que vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Pour vous dire à quel point l'album Jaune que Jean-Pierre a sorti, c'était un album extrêmement important pour lui dans sa carrière, mais aussi pour le Québec. Okay? Je fais un parallèle avec Bob Dylan le 25 juillet 1965. Bob Dylan, il était connu, il faisait de la musique acoustique avec sa petite guitare sèche, son harmonica. Les purs et durs de la folk music l'adoraient. C'était un dieu pour eux autres, le Bob Dylan, quand il chantait. Et à un moment donné, il va au festival Newport, qui est un festival de folk music. Okay? Ça, c'est des gens, là, ne touche pas à une guitare électrique, là, parce que c'est un vendu total. C'est du monde qui veulent voir des gens qui ont une guitare sèche puis qui chantent de la folk music, vraiment des purs et durs. Dylan monte là, il est tout jeune, il a des lunettes noires, il monte avec sa guitare électrique, OK, puis il chante Like a Rolling Stone, je crois, là. Là, les gens commencent à huer dans la salle en disant « C'est épouvantable, une guitare électrique, c'est un vendu. » Et là, Dylan se retourne vers sa gang des musiciens, puis il dit « Louder, jouez plus fort. » Puis là, bam, il joue fort. Les gens, ils jetaient des affaires, ça criait comme des fous. Et il se disait « Fuck you. » Moi, maintenant, je fais de la chanson, je fais du rock, je fais de la musique avec une guitare électrique, et ça a causé un émoi incroyable. Il y a des gens qui l'ont laissé tomber, tout ça. Alors, quand Jean-Pierre est arrivé avec l'album Jaune, Jean-Pierre était un auteur, compositeur, interprète, tu sais, à la française un peu, qui faisait des chansons d'auteur à la française et tout ça. Et là, il est arrivé, il dit « Moi, j'ai le goût de faire un album. » Il écoutait ce que les Beatles faisaient avec Abbey Road, avec Sgt. Pepper, tout ça. Il écoutait ce que les Beach Boys faisaient avec Pet Sounds, avec tout un son, tu sais, c'était bon, là, des années 60, 70. Jaune est sorti en novembre 70, donc un mois après la crise d'octobre. Imaginez, là, au Québec, on est en pleine crise d'octobre, c'est une crise énorme. Il arrive avec l'album Jaune, et là, il arrive avec un album comme psychédélique. Et vous savez que John Lennon écoutait Jaune de Jean-Pierre Ferland, il tripait sur cet album-là. Alors, lui, il arrive avec cet album-là, avec des musiciens qui, plus tard, vont jouer avec King Crimson, vont jouer avec plein de monde. Et il arrive avec un album psychédélique. Et là, quand l'album est sorti, juste avant de faire son show à la Place des Arts pour présenter son premier show Jaune, il discute, et ça, c'est Alain de Repentigny qui écrivait ça dans la presse il y a quelques années, il discute avec 4 étudiants de l'Université de Montréal. Puis les étudiants de l'Université de Montréal disent « T'es un vendu, OK? Tu fais maintenant de la pop, tu fais de la musique pop, t'es un vendu, tu fais plus maintenant de la grande chanson, puis ça n'a pas de bon sens. » Et lui, il leur dit « Ben, si vous me suivez pas, si vous voulez pas me suivre, allez chier. » C'est ça qu'il dit. Il se lève, puis il part. Et justement, c'est ce qu'ils ont fait, parce que la première de son show Jaune, déjà, Jean-Pierre était down parce que son ex, Constance, elle l'avait quitté pour Leonard Cohen. Lui et Leonard Cohen, là, c'était les deux coqs, là, okay? C'était les deux cruisers, c'était les deux grands séducteurs. Fait que un peu en compétition, sa blonde l'avait quitté pour Leonard Cohen. Et il savait que Leonard Cohen était dans la salle pour garder son show avec son ex. Fait qu'il était déjà fru, il était down. Il reçoit un paquet et il ouvre le paquet, c'était une crotte. C'était de l'excrément que les gars de l'Université de Montréal y avaient envoyé parce qu'ils avaient dit « Si vous me suivez pas, allez chier. » C'est ce qu'ils ont fait. Alors là, il était totalement déprimé. il présente son show. Vous savez, c'était quoi, jaune, hein? Son show, il était sur un gros bulldozer. Il avait monté des... Ça, c'est Guy Latraverse qui avait eu l'idée. Il avait monté des bulldozers sur la scène de la place des Arts, puis c'était tellement lourd qu'il a fallu qu'ils mettent des fondations pour faire soutenir la scène de la place des Arts pour pouvoir supporter le poids de ces bulldozers-là. Et là, il était dans la pelle du bulldozer qui était jaune, et là, la pelle descendait comme ça. Et Jean-Pierre était sur la pelle, puis il chantait dans son micro, puis tout ça. Mais il était down, ça allait pas. Donc, tu sais, c'était un choc immense quand il intervient avec Jaune. C'est comme, waouh, on arrive en ville avec cette musique-là. Et ça a été vraiment important. Et comme le dit Sophie ce week-end, à LCN, il est passé par différentes transformations, différentes mutations. J'avais des amis à la maison samedi soir, et là, la discussion a commencé. On savait que Jean-Pierre était malade, très malade. On savait que ça se passerait au cours du week-end, qu'il passerait à trépas au cours du week-end. On ne savait pas quand. Donc, on était un peu... on attendait sur nos gardes. On attendait le coup de téléphone. Et j'étais avec des amis, puis là, la discussion s'est mise à aller sur la souveraineté, puis crois-tu qu'on va être souverain un jour? Puis moi, des fois, je suis très pessimiste. Puis je dis, ben non, on ne le sera pas. Parce que comme Jean-Pierre Ferland l'a écrit, on est pissou. On est pissou, je vous le dis, là, dringue. Jean-Pierre est mort. Il y a des coïncidences vraiment bizarres dans la vie, là. Dringue, on l'a appris. Je dis, Jean-Pierre l'a dit, on est pissou, on est bon là, pour s'énerver, puis avoir des excès de colère, puis tout ça. Puis après ça, quoi? On prend notre trou. On est pissou, comme disait Jean-Pierre. Je ne sais pas si c'est un message qu'il faisait, mais il y a des drôles de coïncidences dans la vie. Donc, on a perdu un grand bonhomme, puis j'ai perdu un bon ami. C'était un week-end assez difficile. Vous avez vu la Fédération autonome de l'enseignement qui va aller contester le fait qu'on utilise la clause non-obstant pour pouvoir reconduire la loi 21 sur la laïcité. Et là, les gens de la FAE disent, oh, vous savez, c'est très dangereux, ça, la clause non-obstant comme ça, parce qu'à un moment donné, il y a des populistes au Québec qui peuvent utiliser cette clause-là pour pouvoir, par exemple, dire, ben nous autres, l'avortement, on est contre, on va rendre l'avortement illégal au Québec, et donc on se retire de la Constitution. Êtes-vous fou? Riez-vous vraiment? Êtes-vous complètement capoté? Est-ce que vous avez bu de l'acide ou quoi? Pensez-vous vraiment qu'au Québec, il y a des populistes comme ça qui vont venir, tu sais, qui vont être élus, qui vont être portés au pouvoir, puis qui vont dire, nous autres, on veut rien savoir de l'avortement, puis tout ça. C'est quoi cette lutte qu'ils mènent à la Fédération autonome de l'enseignement contre la loi 21, qui est une loi sur la laïcité extrêmement timorée, qui dit les étudiants peuvent porter des signes religieux, c'est seulement les profs qui ne peuvent pas en porter. Puis il y avait une clause grand-père, c'est-à-dire qui dit que si vous étiez prof avant l'adoption de la loi 21, vous pouvez garder votre signe religieux, Saint-Bordel. C'est pas une loi hyper élevée, c'est pas une loi super stricte. Et là, eux autres, ils partent en guerre contre ça en disant non, c'est parce qu'on veut protéger le peuple québécois quasiment contre lui-même. C'est juste, ils disent pas, oh, le peuple québécois a des tendances fascistes, des tendances populistes, puis là, il faut un peu les encadrer par la Constitution, parce que si la Constitution n'encadre pas et ne protège pas les Québécois contre eux-mêmes, ils vont à un moment donné élire des gens qui vont être contre l'avortement. C'est exactement ce que les fédéralistes et ce que Trudeau disaient. Il faut protéger les Québécois contre leurs tendances populistes, fascisantes et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'ils avaient rapatrié la Constitution en 82 et tout ça, pour essayer d'encadrer les Québécois. Je trouve ça tellement paternaliste, tellement... C'est vraiment du gros n'importe quoi.